Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, très heureux de vous accueillir pour cette rencontre intitulée « Esprit de famille ». Alors c'est vrai qu'on va évoquer des familles, la famille, à travers les trois livres des autrices et auteurs présents près de moi. Je suis très très bien entouré par Félicité Herzog, Blandine Rinkel et Pierre Ducrozet. Quelques mots sur vous. Blandine Rinkel, vous avez été la révélation de la rentrée littéraire d'hiver 2017 avec « L'abandon des prétentions ». Et vous avez également publié chez Fayard « Le non-secret des choses ». Vous aviez été qualifiée d'artiste totale par Télérama notamment. Et vous êtes aussi musicienne et auteur de textes, hein, de chansons, parolière. Je pense que ça va intéresser Pierre Ducrozet parce qu'on va voir que dans son livre, la première passerelle est faite dans les variations de Paul chez Actes Sud. Il est question bien sûr d'une histoire de famille à travers trois générations, mais c'est un peu question aussi d'une traversée un peu du XXe siècle à travers... plus qu'en toile de fond, mais vraiment le thème de la musique, ces variations de Paul sont vraiment importantes dans votre livre. Donc, Blandine Rinkel, vous nous proposez alors un livre de la rentrée littéraire, Vers la violence, qui m'a énormément touché. C'est vraiment centré sur les rapports entre un père, Gérard, dont on va découvrir très progressivement le caractère, la façon de se comporter. Ça, c'est vraiment, il y a une sorte de tension permanente dans votre roman. Et sa fille, Lou, avec une mère aussi présente, hein, qui est Annie, si je me souviens bien, son prénom. Mais c'est vraiment centré quand même sur ses relations père-fille, et on va la voir évoluer, on va la voir grandir au cours du roman, cette fameuse Lou. Et c'est un livre sur le temps aussi, sur le passage du temps et sur l'évolution des relations. Voilà, un très magnifique livre, Vers la violence, publié chez Fayard, donc, et c'est en cette rentrée littéraire. Félicité Herzog, vous êtes-vous donc... alors, vous êtes née à Boulogne-Billancourt, je crois, j'avais ça sur... je ne sais pas si c'est... Née à Boulogne-Billancourt, c'est bien ça, voilà. C'est sur ma bio, voilà. Pourquoi pas, c'est très bien. Félicité Herzog, vous êtes l'auteur d'un héros donc, chez Grasset en 2012, un roman en partie, je crois, autobiographique, qui a été un succès de presse et de vente. Puis il y a eu également un deuxième roman publié chez Gallimard, gratis, en 2015. Aujourd'hui, vous êtes là pour évoquer donc, une brève libération publiée chez Stock. Et là, on va suivre en fait un peu l'itinéraire de deux familles. Il va y avoir une question de rencontre. On est pendant la Seconde Guerre mondiale, mais on va déborder évidemment cette Seconde Guerre mondiale. Deux familles qui n'auraient peut-être jamais dû se rencontrer. Et un homme et une femme qui n'auraient sans doute également dû jamais se rencontrer, mais qui vont donc se rencontrer. Pierre Ducrozet, donc, j'avais eu l'occasion en effet, de m'entretenir avec vous il y a quelques années à Dax, c'était pour l'invention des corps. Vous êtes notamment l'auteur de Héroïca chez Grasset en 2015, donc L'invention des corps en 2017 chez Actes Sud, Prix de Flore, et Le Grand Vertige donc chez Actes Sud également en 2020. Variation de Paul est votre sixième roman, et je le disais un peu tout à l'heure, il s'agit vraiment, je trouve, d'une traversée un peu du siècle, si je puis dire, à travers, c'est un peu l'histoire du XXe siècle, mais à travers donc trois générations de familles. Alors, le thème de la table ronde, c'est bien sûr la famille, on y est, mais j'ai envie de dire, ça c'est un peu peut-être le point de départ, le cœur, quel a été pour vous trois, la question s'adresse à vous trois un petit peu, est-ce qu'il y a eu un élément un peu déclencheur au départ, une envie peut-être de s'axer peut-être sur les relations, j'ai envie de dire père-fille pour vous, Blandine Rinkel, et avec la mère aussi présente. Pierre Ducrozet, qui est un livre très, très maîtrisé, très ambitieux. Donc là, c'est vraiment une construction. On passe de la naissance à la mort dans la même page. On brasse les époques. Donc ça, c'est vraiment très, très fort. Et donc, Félicité Herzog, vous, on suit de manière très habile aussi ces deux destins familiales à travers, en effet, une jeune femme qui est d'une famille plutôt, on va dire, engagée dans la collaboration un petit peu pendant la Seconde Guerre mondiale, pour aller vite, et un personnage, Simon, je crois qu'il s'appelle, qui, lui, s'engage dans la résistance, dans le Vercors. Donc, quelle a été un peu votre envie de départ? Est-ce qu'il y a eu plusieurs éléments déclencheurs? Blandine Rinkel, Félicité Herzog et Pierre Ducrozet. La question s'adresse à tous les trois. Ça nous permet comme ça d'entrer dans le vif du sujet. Blandine, peut-être vous voulez répondre en premier?
Oui. le point de départ donc de cette, c'est ça que vous, de la relation qui est décrite. En fait, j'avais eu l'impression avec mes précédents livres de montrer un visage trop domestiqué, peut-être trop poli, peut-être trop féminin, tel qu'on caricature le féminin en tous les cas, trop doux. Et je voulais aller vers quelque chose de plus âpre, de plus violent, peut-être de plus asocial aussi, de moins domestiqué, de plus sauvage. Et en fait, en essayant comme ça de chercher une écriture plus âpre et plus frontale, je me suis dit que ce qui me manquait dans ce que j'avais écrit précédemment, c'était le masculin. En fait, je n'avais écrit que des romans de femmes qui regardent d'autres femmes, qui parlent de femmes, enfin voilà. Super, j'adore les femmes. Super. Mais j'ai aussi, personnellement, j'adore aussi les hommes, et j'ai une part très masculine, et je me suis dit, tiens, c'est comme si ça, c'était l'ombre de ce que j'écrivais, quelque chose que je n'osais pas tout à fait explorer. Et bref, je me suis dit, allons-y, intéressons-nous au masculin, qu'est-ce que ça veut dire ? Et en fait, en creusant ça, eh ben, j'ai écrit une histoire de père. Et au départ, c'était un homme qui parlait de son père, et puis petit à petit, j'ai récupéré une femme, mais peut-être du coup une femme plus corrosive ou plus âpre, une narratrice plus âpre que mes précédentes narratrices. Voilà.
Félicité Herzog et ensuite Pierre Ducrozet, vous, quelle était la source?
En fait, c'est une histoire donc, d'amour dans laquelle j'ai grandi. J'en ai toujours entendu parler parce que c'est l'histoire d'amour de ma mère qui aujourd'hui a 96 ans. Et donc, petite musique de cette histoire d'amour m'a accompagnée au fil des années. Et il y a à peu près 2-3 ans, je me suis dit... Franchement, il faut que je raconte cette histoire, mais je connaissais juste je la connaissais de manière élémentaire. Et pour pouvoir écrire dessus, il a vraiment fallu rentrer dans un travail d'enquête et d'investigation, et puis surtout de compréhension de ce qu'a été la collaboration, l'antisémitisme, la résistance. Enfin, c'était un roman, mais infiniment plus ambitieux que ce que j'avais imaginé au départ. Mais voilà, donc c'était ça le point de départ, le temps qui passe et l'envie aussi que ma mère, qui va fêter ses 97 ans le 12 novembre, aura ce livre dans ses mains et surtout on sera satisfaite. Donc voilà, c'était ça mon ambition.
Pierre Ducrozet, l'ambition de départ, parce que Félicité vient de parler d'ambition.
Oui. Après avoir fait un livre qui était la matière, c'était le corps. Après l'autre la matière de Hugo Vertige, je crois le territoire, la géographie. Là, je me suis dit, je crois que c'était l'idée, c'était le temps, c'était d'avoir deux bornes assez éloignées, donc en gros 1914 et 2020. Et avec ces deux bornes-là, et voir à quelle forme a un siècle, quelle forme a une vie, des vies. Et moi, ce qui m'intéresse dans les livres, souvent, c'est quel dessin la narration trace. Qu'est-ce que ça dessine comme forme dans un cerveau. Tous les livres, en fait, tous les livres qui existent ont une pour être dessinés, je crois. Et ça ferait à chaque fois des choses, des pièces uniques. Et donc là, c'était ça, à travers le cavalier qui était la musique et cette famille. En fait, la musique, c'est plus que le sujet, c'est plus un moteur, c'est plus un allié. Et ben, c'était de donner une forme à ce siècle, une forme si possible à la marge, puisque la musique, est souvent, les personnages, elle les entraîne dans des à côté, dans des souterrains, dans la nuit, dans tout ce qui est tout ce qui tremble, tout ce qui est intranquille.
Il y a ce thème de la musique, ça me fait penser qu'il y a chez vous, dans vos écritures respectives, Blandine Rinkel et Félicité Herzog, des écritures qui ne se ressemblent absolument pas, mais il y a chez vous deux, justement, des capacités à maintenir aussi le rythme, à travailler la langue et à faire que le style soit vraiment évident. Il y a une fluidité chez vous, comme chez vous, du reste, avec vous, chez peut-être plus un arrière-plan historique, hein, bien sûr, chez Félicité Herzog, mais il y a ce travail, peut-être, sur la langue, sur le rythme, sur la musique. Vous êtes musicienne aussi, parolière de chansons. Je me suis posé la question justement, est-ce que quand vous écrivez, c'est une question que je pose souvent, mais allons-y, c'est pas grave, ça fera une fois de plus, est-ce que du coup vous travaillez beaucoup cette écriture, est-ce que vous vous écoutez, est-ce que vous lisez à voix haute, on parle souvent de Flaubert, évidemment c'est la référence qu'on cite, mais est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez particulièrement, parce qu'on est vraiment emporté, pour vous deux et pour l'écriture de Pierre Ducrozet, dans un genre encore différent aussi nous emporte, est-ce qu'il y a ce travail justement sur le rythme que vous travaillez?
Oui. Il y a un travail sur le rythme. Alors, il y a deux choses, quoi. Il y a le rythme narratif. Ça, j'ai essayé de vraiment beaucoup le travailler de sorte à ce qu'on soit en apnée. C'est un retour qu'on me fait souvent sur ce livre et qui me fait vraiment plaisir parce qu'en fait, mes précédents livres, je ne les trouvais pas assez tenus en termes de narration, vraiment d'efficacité narrative. Et j'avais envie, en fait, d'écrire un livre où les gens ont du mal à le lâcher, en tous les cas, au début. C'était un défi parce que je ne savais pas faire et je trouve ça toujours intéressant d'essayer de faire ce qu'on ne sait pas faire. Donc ce rythme-là, ouais, j'ai vraiment essayé de le travailler, de construire des ellipses, de faire en sorte qu'à la fin d'un chapitre, on ait vraiment besoin d'aller au suivant. Enfin, ça, c'est vraiment volontaire, quoi. C'est un vrai travail que j'ai fait. Après, le rythme de la phrase, parce que du coup, c'est deux histoires différentes. Alors oui, je suis musicienne, mais précisément pour moi, l'écriture, je la situe pas du tout au même endroit que la parole, que le chant. Pour moi, c'est quelque chose, c'est une musique, évidemment, mais c'est une musique vraiment intérieure. Donc non, je n'ai pas de gueuloir, je ne scande pas mes phrases. Et c'est... Non, au contraire, moi j'ai l'impression que de chercher une sorte de musique juste et invisible et vraiment radicalement asociale. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment ce que je trouve dans l'écriture et c'est pas le cas dans la musique. Enfin, quand je fais de la musique, je cherche vraiment à être en lien avec des gens. Quand j'écris, il y a une sorte de ligne comme ça... pure et invisible voilà, que j'essaie d'atteindre. Après, une fois que j'ai écrit une sorte de premier jet, en général, ouais, je lis à voix haute et je lis notamment à des amis musiciens, en effet. Et là, oui, ils entendent assez vite en fait, ce qui sonne juste, faux. Et c'est vrai que la justesse, on l'entend très vite quand on le lit à quelqu'un. On voit dans ses yeux sa réaction. Enfin, donc, oui, ça m'importe. Et toute petite dernière parenthèse pour répondre à cette question. Néanmoins, quand je suis vraiment coincée dans le texte et quand justement je n'arrive pas à trouver cette espèce de ligne fine, invisible, bizarre, juste et intérieure, je me parle à moi-même. Ouais, j'utilise la fonction dictaphone de mon smartphone et je marche et je fais des voilà je marche longuement et je m'enregistre et je m'auto-pose des questions. Donc je le fais dans des villes vraiment désertées hein, parce que sinon c'est très très embarrassant évidemment. Ça l'est déjà même quand on est seul à faire ça. Et je fais ça assez longuement et souvent quand même globalement c'est assez foireux ce qui se passe entre moi et moi. Enfin c'est pas passionnant comme dialogue, mais parfois je tombe soudain en me parlant à moi-même sur des idées que j'aurais pas pu avoir à l'écrit. Mais ouais, en fait c'est à défaut d'avoir quelqu'un à qui parler. Hein, en fait ça peut le faire aussi dans des conversations avec des amis, mais parfois les amis sont pas là. Et donc je tombe sur une idée juste et souvent je l'entends et c'est pour ça que je l'entends à ma voix en fait. Je sens l'énergie quand je réécoute le dictaphone. J'entends soudain en fait qu'il y a une énergie toute particulière quand je dis quelque chose ou que la musique change. Soudain je parle comme ça en laissant plus de silence. Et j'entends à la musique de ma voix que là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose à creuser et après, je vais le creuser en écrivant. Quoi. Mais oui, il y a quand même un dialogue.
Comme quoi, la question, finalement, nous amenait féliciter. C'est même procédé que Blandine ou tout à fait différent?
Moi, je pense qu'un écrivain, c'est une sorte de musicien des mots et des phrases. Mais c'est une sorte de musique qui s'apparente aussi à la peinture. Enfin, en fait, on aimerait idéalement que le lecteur ou la lectrice se sente dans le roman, présent, et qu'on soit capable de restituer de manière absolument émotionnelle, sensible, ce qu'on cherche à dire. Et dans les livres de mes camarades, et je pense à celui de Blandine, c'est vrai que c'est très percutant. On se sent là, sous le voilà les exigences de Gérard, par exemple. Et donc ça, c'est extrêmement réussi. Moi, ce qui a été compliqué dans ce livre-là particulièrement, c'est qu'il repose sur énormément de matière historique qui est très délicate. On a beau être 80 ans après la guerre, ça reste très compliqué d'aborder le sujet de la collaboration dans des familles. Et pour moi, techniquement, ce qui a été difficile, c'était vraiment d'en faire un roman et de ne pas tomber dans le récit historique. Et ça, en fait, il n'y a vraiment que le style. Et ça veut dire, en fait, revenir indéfiniment sur les phrases, sur les mots, sur la ponctuation, pour que voilà, ça dégage une musique ou un tableau qui produise de l'émotion.
Pierre Ducrozet ? votre...
Oui, bah, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit. Moi, j'ai toujours un peu considéré la musique et l'écriture comme une même chose, même si, comme ce que dit Blondine, ça ne fonctionne pas pareil exactement, mais malgré tout, c'est la même question de rythme, de souffle, de composition, de point, de contrepoint. Enfin, il y a tout enfin, moi, c'est la chose qui m'intéresse dans les livres, c'est d'ailleurs aussi quand je vous lis toutes les deux, c'est comment le rythme et le son de la phrase va créer en moi, dans mon corps, une sensation qui va au-delà du simple sens des mots, puisque on n'est pas juste, sinon c'est pas de la littérature, c'est ce qui se passe quand on entre dans la poésie, je sais pas, peu importe comment on l'appelle, c'est quand le mot aligné de telle manière crée une sorte d'effet corporel en vous. Et ce que tu dis aussi, c'est voilà, ce qui est génial, formidable dans l'écriture, et notamment de romans, c'est qu'on peut tout faire à la fois. Donc on fait de la peinture, on fait de la musique, on fait du cinéma, beaucoup, parce qu'il est question de cadrage, il est question de, il y a plein de choses, de montage, je sais pas vous, mais on monte à un niveau quand on a tous nos rushs de milliers de personnes, mais vraiment c'est essentiel, je crois, hein, toi aussi, comment on va avec une scène la retailler, et on peut tout faire. Un artiste ne fait jamais, je crois, une seule chose à la fois. Il fait plein de, il est dans plein de médiums et d'art à la fois. Sinon, ça fonctionne pas. Quand on lit Proust, on voit bien qu'il ne fait pas que écrire, qu'il fait aussi de la peinture, de la musique constamment. Et je peux vous faire ça à l'infini, tous. Voilà. Donc, pour moi, il y a pas de ça. Tout ça se mêle constamment dans dans toutes les phrases.
Peinture, musique, Roche, vous approuvez ce que vient de dire Pierre Ducrozet? Parce que c'est vrai que, par exemple, Blandine Rinkel, on a le sentiment, en vous lisant, je parlais de tension au départ, c'est vrai qu'il y a un côté un peu suspense, enfin, on est totalement tenu, on a envie de découvrir un peu pourquoi ce père Gérard, quand même très mystérieux. Alors, je ne vais pas en dire plus, rassurez-vous, Blandine, parce que bon. Mais c'est vrai qu'il y a une force, justement, de... Alors, il y a aussi une force dans la peinture, justement, des caractères des personnages, à travers le personnage de Lou, la petite fille qu'on va voir grandir, hein, qui va aller au collège, qui va grandir pendant le roman. Pendant le roman, voilà. Et qui, avec sa maman aussi, on voit comment, par la force des choses peut-être, elles ont toutes les deux adopté par rapport à leur père, donc justement Gérard, une attitude parfois d'impassibilité, d'essayer de rester dans le silence. Et là, on retrouve votre écriture, un peu comme au scalpel, très proche des sentiments, d'une façon à pas en surjouer, à pas en rajouter, quand il a parfois des moments qui sont très difficiles, où Gérard, on sent qu'il est... Il y a une scène terrible avec le chien, j'en dis pas plus, mais c'est vrai qu'elle est très centrale dans le livre, et c'est un bon... Moi, elle m'a... pris au trip, enfin bon, j'étais... voilà. Et donc, elles ont appris finalement à réfréner un peu peut-être leurs sentiments, je ne sais pas comment dire, mais voilà.
Ouais, c'est une technique de défense, c'est quelque chose que j'ai essayé de défendre dans tout le livre, c'est qu'il y a une manière de répondre à la violence, et peut-être de proposer une autre forme de violence, c'est de se garder, de se tenir... Et précisément de ne pas répondre à l'agressivité par de l'agressivité. C'est une violence un peu plus insidieuse parce qu'on tape pas, justement, mais c'est un peu l'idée que quelqu'un qui vient vers vous, qui vous insulte, qui veut vous frapper, qui vous fait peur, qui vous menace, vous pouvez soit vraiment avoir peur, montrer votre peur, soit à lui répondre, soit apprendre à vous tenir, à vous garder, à le regarder dans les yeux, à ne rien répondre et à dire juste tu ne m'auras pas, en fait, tu n'auras pas d'effet sur moi. Et ça, c'est quelque chose qui est long, qui est long à apprendre. Et il me semble que ça peut faire violence. C'est une autre manière de faire violence, parce que les gens très agressifs, la seule chose qu'ils attendent, c'est qu'on leur réponde par de l'agressivité. Et si on se garde, et si on les regarde néanmoins dans les yeux, mais sans leur répondre, ben, y a un effet. On peut avoir un effet avec une maîtrise, avec un silence. Et en effet, c'est aussi une question d'écriture. Enfin, moi, c'est ce que j'essaie de travailler dans mon écriture, c'est... quelque chose d'âpre et de juste qui sans trop en dire, fait un effet presque un peu violent, ouais. Mais pas violent parce que ce serait une écriture crue, avec des invectives, un rythme, ou une agressivité dans l'écriture, mais violent parce que c'est tenu, quoi. Ça se tient violent comme une lame. De couteau, comme ça, voilà, sa droiture, son caractère acéré, et voilà.
C'est pas un hasard si le chapitre, le premier, s'appelle La sensation du couteau, parce que le livre s'ouvre avec ça. C'est sur une scène, en effet, assez tendue, enfin, si je puis dire, sans en dire.
Oui, bah, le couteau, et c'est vrai, l'image du couteau est assez présente dans le livre. Il y a des animaux et des couteaux dans ce livre. Pas ensemble. Pas ensemble. Mais la sensation du couteau, oui, qui donne son nom à la première partie. C'est cette sensation qu'on cherche toutes et tous, vous autant que moi, sans doute, même si peut-être on ne se l'avoue pas tous au même endroit. C'est une sensation qu'on cherche, une sensation en fait où on sent qu'un risque est pris, où on sent que quelque chose vacille. En fait, c'est la sensation, je m'embarque mal, c'est la sensation qu'on éprouve quand, si là j'avais un couteau et que je le mettais contre ma main, vous me regarderiez tous et vous auriez tous à la fois un peu peur et un peu une forme bizarre d'excitation, qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Et cette sensation-là, en fait, cette sensation voilà, qui est un mélange d'adrénaline, de peur, d'excitation, et qui est une sensation qu'on éprouve quand on sent qu'un risque est pris ou va être pris, on peut l'éprouver dans plein de choses, quoi. On peut l'éprouver, comme Gérard, dans des formes de violence comme ça, d'agressivité, quoi, je veux dire, physique. On peut l'éprouver... je ne sais pas, quand on se baigne dans une eau glacée, on peut l'éprouver en buvant de l'alcool, en prenant des drogues, en dansant jusqu'à s'épuiser. On l'éprouve chacun d'autre manière, quoi, ou en vivant des passions amoureuses. Enfin, voilà, chacun a ses combines. Mais il me semble que c'est une sensation, en fait, où quand on l'éprouve, on comprend que violence et vitalité, à certains moments de notre vie, ne font qu'un. Et que... D'une certaine manière, si la violence nous fait aussi peur, c'est parce qu'elle nous fascine, parce qu'il y a quelque chose de vital dans la violence. Et donc c'est quelque chose d'un peu délicat, d'un peu que j'ai essayé de défendre dans mon livre, ouais, d'un peu ambigu, mais que j'ai essayé à la fois de défendre et d'accuser, quoi. Enfin, toujours les deux à la fois.
Avec, il faut bien le dire, je ne l'ai pas assez dit peut-être, parce que pour celles et ceux qui n'ont pas découvert encore le roman, mais... Voilà, des relations qui sont compliquées entre Gérard et les loups. Elles sont pas. Non, mais parce qu'on pourrait penser que.
Ça va pas toujours hyper bien.
On pourrait penser, si on n'a pas lu le livre, ouais, parce que j'insistais beaucoup sur l'aspect tension, mais il y a aussi des moments de grande. Quand elle est petite, ils ont parlé d'un pacte d'imaginaire. Enfin, ils ont vraiment lié entre eux des choses voilà, des profondes. C'est un grand conteur, le Gérard. Bon, c'est peut-être aussi. Bon.
Bah, c'est le charisme des ogres, en fait. Voilà. Les gens les plus charismatiques, c'est toujours la même chose, en fait. Les gens très, très charismatiques font une forte impression sur nous parce que, encore une fois, on en a peur, on les désire, on ne sait pas, quelque chose se passe, quoi. Et c'est l'ogre. Enfin, moi, j'aime bien la figure de l'ogre parce que l'ogre, évidemment, les enfants en ont peur. Ça fait peur parce que l'ogre est censé manger les enfants et en même temps ils attendent qu'une chose, c'est qu'on leur parle de l'ogre. On va leur raconter une histoire d'ogre, ils sont hyper excités, ils sont tendus, ils ont peur, on sait pas. Et cette sensation là je la trouve intéressante, et je trouve surtout qu'on en parle peu quand on parle de violence actuellement dans la société. On parle pas de l'autre face de l'espèce de truc un peu de vitalité un peu tabou qu'on peut éprouver. Et je dis pas ça pour enchanter la violence, pas du tout, hein, mais si on n'en parle pas, on n'est qu'à moitié lucide sur ce que la violence peut faire de nous, fait en nous. Voilà. Et donc, en effet, le père, Gérard, bah, il est ce père... oui, il est génial, en fait. Il est génial, il ne peut qu'être aimé et qu'être aimable. Et en même temps, il ne peut qu'être détesté parce que dans son caractère génial et bigger than life, plus grand que la vie... Eh ben, il y a quelque chose d'inquiétant. Ben, les gens, en général, bigger than life, sont inquiétants. En fait, toutes les figures qu'on a en cinéma, en littérature, c'est il n'y a pas d'émerveillement total sans son envers, quoi. Ouais, c'est une idée qui m'intéresse, en tous les cas.
Pierre Ducrozet, je disais, bon, en entrée de jeu, au cours de ce débat, c'est vrai que vous avez... Il y a la musique qui est très importante, qui est là, qui vraiment va irriguer, j'ai envie de dire, tout le roman. Il y avait cette... À un moment donné, vous aimez bien jouer aussi avec le lecteur. Je crois que j'ai relevé des passages aussi où l'écrivain dit oh, « Bon, on est finalement là, on est en 2010. » Oui, c'est vrai, il y a une scène de famille. Là, ils se retrouvent tous à un moment pour en revenir justement au cœur du thème du débat. Où finalement, là, ils ont peu l'occasion finalement de se retrouver, ces différentes générations. Et vous dites à un moment donné, vous jouez avec les époques, avec les temps, avec la temporalité. Vous parliez de poétique tout à l'heure. C'est aussi un roman qui touche à la philosophie, hein, c'est un roman aussi sur le corps, puisqu'il s'ouvre aussi sur cette très belle scène où Paul est allongé dans l'herbe, et là où il est vraiment, il est à l'écoute de lui-même, j'ai envie de dire, et il est doué aussi d'une qualité d'oreille. Ça, on peut le dire, c'est pas, on divulgue pas. Donc j'aimerais un peu qu'on plonge un peu plus au cœur du roman et vous posez la question de savoir si le lecteur, bien sûr, n'est jamais perdu, vous le promenez au bon sens du terme, mais comment vous avez construit votre roman, qui est très ambitieux du point de vue de littéraire, et d'arriver comme ça à brasser les époques, et est-ce que vous avez un peu une... Vous parliez de rush, de montage, est-ce que quand vous écrivez, justement, vous avez un peu une idée précise d'où vous allez? On a le sentiment que vous savez où vous allez, mais en même temps, vous souhaitez nous promener, quoi, et faire que le lecteur fasse un peu la moitié du chemin aussi.
Oui, oui. Non, je ne sais pas où je vais, sinon je ne ferai pas le chemin... Si je savais où j'allais, non, c'est vrai. Mais en gros, donc il y a ce personnage de Paul qui est mon guide et qui donc est synesthète, donc il voit les sons, hein, il les visualise, il voit des couleurs quand il entend les musiques. Dans son corps, il se passe des choses au-delà de la. Enfin, c'est pas vraiment normal d'ailleurs ce qui lui arrive. Et il a deux particularités. Il a une autre qu'il meurt à plusieurs reprises dans le livre. Son cœur s'arrête parce que son cœur se gonfle et se gorge de monde et de sons et de choses et d'émotions. Il est assez proche finalement de la sensation du couteau. Il est toujours, mais c'est presque naturel chez lui, c'est qu'il est, poreux, il est hypersensible et donc il est constamment avec la lame dans la paume et il aime ça. Mais c'est difficile de vivre comme ça, on le sait tous, et ici je crois. Et donc à un moment donné, lui, c'est juste, je pousse le curseur un peu plus loin, il explose, quoi. Son cœur s'arrête parce que c'est plus possible. Ensuite, il renaît, une sorte de phénix, il s'arrête ton cœur de battre quelques minutes, hein, c'est pas non plus. Voilà. Et donc il renaît dans une nouvelle peau, il part dans d'autres directions. Tout ça pour dire que qui a été mon guide dans la construction du livre, c'était lui. Parce que je me laisse, je suis au service du personnage, donc je me laisse guider par sa manière de voir les choses. Il passe, on passe tous d'un temps à l'autre. Notre vie ne va pas du tout d'un point A à un point B, c'est pas vrai. Donc on circule dans sa tête à la vitesse de son cerveau, de ses associations. C'est-à-dire quand il est à New York, il entend quelques notes comme ça dans la rue qui sont qui le ramènent à son enfance, Heiligenacht. Sa mère, l'Autriche, etc. Et puis on navigue avec lui et puis du coup on revisite avec ses parents plutôt le début du siècle. Et Paul, il est passionné principalement par le rock et donc il va partir à New York, il va partir à Manchester. C'est une sorte de découvreur de son, c'est une sorte d'enquêteur, presque de détective. Et il va repérer ce qui se passe, il entend derrière les musiques. Qu'est-ce que ça dit du monde? Qu'est-ce qui se joue derrière l'arrivée du punk, l'arrivée du hip-hop, etc. Et ces deux enfants, Chiara et Léo, eux, l'une va devenir DJ, l'autre, on ne sait pas trop quoi, mais il est un peu plus à la dérive. Et donc c'est aussi peut-être ce qui traverse vos livres à vous aussi, qu'est-ce qui se passe de génération en génération, qu'est-ce qui ne se passe pas, quelles sont les mains qu'on tend, les mains qu'on n'arrive pas à atteindre. Il y a une scène où ils sont sur un banc, le père avec les deux enfants, et le père tend la main essaye de tendre la main vers son fils, mais il n'y arrive pas. Et l'autre essaye de la recevoir, mais il n'arrive pas. Bref, c'est ce qui se joue dans la transmission et ce qui parfois n'arrive pas à passer.
C'est un peu les hérédités aussi, les métempsychoses, enfin les changements, les modifications aussi de comportement en fonction des... À travers trois générations, enfin vous l'avez un peu dit, Pierre Ducrozet. Ouais.
C'est ça, c'est marrant que vous dites métempsychose parce qu'il y a aussi des fantômes. Aussi. Ouais, ouais, ouais. J'aime bien les fantômes. Et Paul, comme il meurt régulièrement, c'est comme s'il ouvrait des portes entre les différentes strates du réel. C'est pas du tout un livre fantastique, c'est simplement... ce qu'est le monde est peut-être ainsi fait, on ne sait pas tellement où est exactement la limite du réel et tout. Et donc lui, il passe et petit à petit, c'est comme si dans une porte s'infiltrait un peu et les morts et les vivants, il commence à voir des gens apparaître jusqu'à une scène où là, il est envahi par ça. Mais c'est un... il faut imaginer Paul heureux, plutôt... Enfin, moi, en tout cas, j'imagine heureux. Et le livre, je savais qu'il cheminait vers une fête finale à laquelle je tenais beaucoup.
Vous saviez où vous alliez.
J'aime bien faire la fête et à la fin des livres. Ça me cheminait vers ça et vers Paul dans une grande maison comme ça en Corse, avec la lumière qui traverse et toutes les portes ouvertes et un homme qui finit sa vie extrêmement libre, extrêmement jeune, beaucoup plus qu'il ne l'a commencé. Donc à chaque renaissance, il devient de plus en plus jeune jusqu'à devenir une sorte d'enfant de 75 ans.
un livre traversé par une énergie aussi, il faut le dire, hein, le côté corporel, l'énergie est présent, enfin il irrigue tout le roman, Pierre Ducrozet. Ouais.
Oui, c'est aussi...
Non, mais c'est vrai, vous travaillez sur les... Il y avait les corps, quand même dans le...
C'est ça, c'est ce qui m'intéresse dans la littérature, c'est regarder les corps, voir ce qu'ils font, et effectivement, ils bougent beaucoup, ces corps. Juste voir... On parlait de danse, voir qu'est-ce qu'il se passe quand un corps bouge et qu'est-ce que ça dit de ce qui se passe à l'intérieur. Moi, c'est comme ça que je conçois les scènes. J'aimais les personnages, je les regarde bouger et je vois ce qui se passe. Et donc là, ils bougent beaucoup, ils dansent beaucoup, ils s'agitent, c'est des personnages un peu... J'ai dit intranquille tout à l'heure, hein. Ils sont sur la sellette, quoi. Et ça m'intéresse de voir ce qui se passe quand on est sur la sellette comme eux. Donc voilà, et c'est cette histoire du XXe siècle à travers ces corps fébriles.
Félicité Herzog, vous, c'est une histoire du XXe siècle aussi, hein, puisqu'on passe, on est surtout centré bien sûr sur la Seconde Guerre mondiale, mais j'ai lu un peu votre roman. Alors c'est une question bien sûr d'histoire de deux familles, comme je l'ai dit, qui n'auraient pas dû se rencontrer, de Marie-Pierre donc, qui va rencontrer Simon aussi, ça arrive vraiment à la toute fin, trois quarts du livre. Il y a quand même, moi je l'ai lu aussi, comme, vous me direz si je me trompe, comme un portrait de femme qui avance dans le temps et qui progressivement va s'émanciper, va se libérer finalement d'un milieu, voilà, qui va réussir à trouver. Elle est aussi animée, comme Simon d'ailleurs, qui lui s'engage dans la résistance, elle est aussi animée d'une énergie farouche, et je rejoins ce que... Ouais. Les propos de Pierre Ducrozet.
Moi, je suis très en phase avec cette idée de Pierre, qu'on fait face à des fantômes. Non pas que je crois aux fantômes, naturellement, mais je m'interroge. Je suis quand même dans une famille où tout le monde écrit, en gros. Alors, c'est pas une famille de musiciens, mais dans ma famille, on entend le bruit du stylo ou du clavier chaque été. Donc il y a énormément de romans, d'essais, etc. Mais cette période de 1939-1940 à 1947, elle avait toujours été esquivée. Et ça m'a beaucoup impressionnée de penser que voilà, pendant une aussi longue période de temps, malgré autant de livres écrits, on avait réussi finalement à... Enfin, on n'était pas parvenu à vraiment rentrer dans cette histoire incroyable d'amour entre deux personnes, effectivement, qui n'auraient pas dû s'aimer parce qu'ils ne venaient pas du même milieu. L'un était juif, l'autre était catho. L'un sortait des maquis du Vercors, l'autre de la collaboration vichyste. Et au fond, tu parles de transmission et de notre rôle de transmettre. Ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce que je suis la seule personne dans mon milieu familial absolument à être hypnotisée, fascinée. Pourtant, j'ai un métier. Hein, je travaille par ailleurs pour une entreprise dans la finance. Et pourtant, je suis happée par le passé. Je ne comprends pas comment est-ce que je peux être aussi impressionnée par des faits qui se sont déroulés il y a 75 ans. Voilà, donc quand on parle de métempsychose, c'est ça, hein, métempsychose, de fantômes, comme pour écrire ce livre, il a fallu faire face à des gens qui ont existé, dont je retrace, je reconstitue entièrement la vie, des scènes de guerre, des scènes d'amour. En plus, c'est compliqué parce que je parle de ma mère, alors les scènes d'amour, c'est pas évident, mais aussi la vie sous l'occupation à Paris. Et puis aussi des itinéraires qu'il a fallu entièrement reconstruire. Alors même s'il y avait beaucoup de documentation historique, ça reste un roman. Donc j'ai complètement oublié votre question par ailleurs. Mais...
Est-ce que je parlais de l'énergie qui traversait aussi, ouais. Je parlais de Marie-Pierre qui justement est. Vous avez parlé de la littérature.
Ah oui,
c'est important aussi. Enfin, on pourrait y
comme
revenir.
Figure, mais... Non, mais oui. Comme figure, femme, de jeune femme
qui s'émancipe, qui
à
se
21 libère. Ans de tout quitter. Pour l'amour, pour un amour, alors que c'est une jeune femme qui est en gros dressée, entre guillemets, pardon de ce terme horrible, mais vraiment dressée pour être mariée, puisqu'à l'époque, ce qu'on oublie toujours, c'est qu'on était doté, il n'y avait pas de contraception. Donc il fallait être marié à 20 ans, 21 ans, sinon vous étiez de la marchandise réclamée, en gros, après. Et ça, évidemment, on a un peu oublié, parce qu'aujourd'hui, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Mais c'est vraiment... Je fais le portrait, en fait, d'une très jeune femme qui se libère de son milieu qui est féroce, qui est aristocratique, qui est la tête, littéralement, dans le chaudron de Vichy, parce que la mère de Marie-Pierre est une des meilleures amies de José Laval, la fille du président du Conseil. Comment est-ce qu'avec ses armes, ses armes intellectuelles, comment est-ce qu'elle fait face à cette violence absolument incroyable des années 30, d'antisémitisme, de racisme? Je veux dire, nous, on est révoltés par ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais il faut voir dans les années 30 ce que c'est, les gens se balançaient. Et comment cette toute jeune femme qui vit dans un milieu complètement confiné, hein, puisque de l'âge de 15 ans à 20 ans, elle est dans un hôtel particulier à Paris, et nous, on a connu 2 mois de confinement, eux, c'était 4 ans. Comment elle se libère? Elle se libère parce qu'elle fait de la philo, parce qu'elle réfléchit, parce qu'elle lit. C'est la lecture, en fait, qui la sauve et qui lui permet de s'affranchir et de tomber amoureuse et de rompre. Voilà.
C'est vrai qu'en effet, oui, Pierre,
allez-y. Est-ce que je peux juste redire un mot sur la transmission? Parce qu'il y a une des choses qui m'a le plus touché dans le roman de Blandine. C'est la question que je posais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on nous donne, non? Et dans la deuxième partie du livre, surprise du lecteur, en fait, on est des années plus tard, on ne le voit pas venir forcément. Bam, gros, cut. Et là, le personnage de la fille qui est devenue une femme... la question, ce qui traverse, c'est qu'est-ce qu'elle va faire avec ce qu'on lui a donné et pas donné. Et là, c'est sublime parce qu'elle se débat avec cette espèce de pelote. Enfin, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Hein. Mais elle se débat avec ce qu'on lui a donné, qui est une sorte de truc ambivalent, fait de plein de facettes. Et elle va essayer à la fois de le transformer en beauté, en ardeur, en fièvre, en danse. Et évidemment, elle est aussi traversée par des forces plus négatives. Et donc, c'est ce qui peut-être traverse nos livres. C'est, voilà, c'est ça. On nous donne ça, on est avec ça. Et en quoi on va le transformer, quoi. Et c'est pour ça que c'est intéressant, les livres sur sur différentes générations. Et donc, en particulier ça. Avec, en plus, la dernière, j'en parlerai pas, mais les dernières pages qui sont la conclusion dans ton livre sublime de ce... Voilà, je fais ça avec ça.
Blandine, la lecture de Pierre du Crozet vous convient? Ça va? Elle vous touche? Une sorte d'adieu à l'enfance aussi, j'ai vu ça un peu dans votre livre aussi, une sorte de... Et puis peut-être un type d'homme
non,
aussi,
ça
peut-être.
Pas. Ouais,
ça
ne
vous
adieu,
va pas, je sais pas, enfin, j'essaie de doute, trouver. Mais, oui, ça ne vous va pas, vous avez le droit de ça.
Ce que j'entendais aussi dans ce que disait Félicité, c'est l'idée de rupture. Alors oui, il y a l'idée de transformation. Qu'est-ce qu'on fait de, en effet, ce avec quoi on est? Bon, des parents, des habitudes, des envies, un corps qui a envie de faire... Voilà, comment est-ce qu'on transforme ça si on est spontanément violent ou doux ou je sais pas quoi, réservé ou musical ou au contraire très sec? Qu'est-ce qu'on fait de ça et comment est-ce qu'on peut changer ça? Il y a cette question-là, mais il y en a une autre, en effet, que je... pose dans le livre qui est celle de la rupture, parce que c'est un livre de rupture, mon affaire, c'est un livre d'amour et de rupture, les deux ensemble. Mais il y a une forme de radicalité à la fin, il y a une vraie rupture, c'est pas juste une sorte de transformation joyeuse, c'est un livre quand même assez tragique.
Mais c'est bien
tragique.
Ça la rupture, c'est qu'est-ce qu'on fait avec son et là on décide de couper.
Ouais, mais on peut aussi être dans une joyeuse transformation.
Non, mais soit, je veux dire, quand on dit, il y a le père, la mère donne quelque chose à l'enfant qui est de mille ordres, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On peut couper, on peut prendre, on peut transformer, et là, effectivement.
Ouais. Mais parce qu'il y a beaucoup de livres qui parlent de transformation d'héritage, quoi. Et là, quand même, il y a quelque chose qui est posé de rompre aussi avec une forme de malédiction qui est une violence qui se transmet de génération en génération, mais de manière presque ancestrale. En fait, à un moment dans le livre, je sous-entends presque qu'on pourrait remonter, je sais pas, aux hommes du Cro-Magnon, quoi. Et en fait, cette violence-là, c'est au début, en fait, c'était des hommes qui étaient des proies, les proies d'animaux sauvages. Et ces hommes-là, en fait, qui, par peur d'être proies, se sont mis à développer une violence qui se transmet. Et là, paf, on arrive, on est en 2021, Et en fait, on a toujours un... Et qu'est-ce qu'on fait à un moment pour mettre fin à ça ? Et la fille, Lou, dit, en fait, il n'y aura pas de suite de ça. Avec mon existence, je mets fin à cette violence de ma famille, quoi. Je vous laisse découvrir comment, mais... Oui. Mais il y a quelque chose qui rompt et qui meurt. Et en même temps, qui, comme toujours, quand les choses meurent, elles vivent éternellement. Donc, qui se pérennisent en mourant, aussi.
Avez-vous des questions, des remarques, des réflexions pour Félicité Herzog, Blandine Rinkel, Pierre Ducrozet ? Il y a un micro qui peut circuler. Si
vous... Oui, si, je suis sûr. Sinon, je pense qu'il y a des questions là qui sont en train de... Oui, là, je les entends.
Des remarques ou des réflexions, oui, oui.
Des quoi ? C'est une blague ?
Oui, oui.
Des désaccords.
Ou une blague, dit Blandine.
Des désaccords, oui, une blague. Ouais.
Ah, vous voyez, ah, bah voilà.
Je vous voyais, hein, je vous avais vu. Tu l'avais vu. Mais oh, ça fait un petit moment que je l'ai senti.
Oui, je m'adresse donc à Pierre.
Oui.
Dans votre roman, vous utilisez un système de comment dire, on passe une chose, une musique, vous l'avez dit, une musique vous fait penser à quelque chose et vous allez parler de votre enfance ou d'autre chose. Et bien après autre chose, enfin chaque des éléments de votre vie vous font passer d'une époque à une autre, d'un moment à un autre, d'un lieu à un autre. Est-ce que c'est ça le système de votre
En partie. Il y a aussi une ligne.
Un fil. Il y a quand même un fil.
Ah oui, il y a plein de fils. Il y a notamment le fil. Il y a un fil chronologique aussi, ouais. Et il y a un fil, il y a plusieurs fils. Il y a un fil aussi de 2021, une voiture, le père, les deux enfants qui vont quelque part. Ça, c'est un autre fil. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne vais pas aller de la naissance à la mort de Paul. Enfin, il ne meurt pas d'ailleurs. Mais je ne vais pas aller de la naissance à parce que une vie humaine et le cerveau de Paul et n'importe quel cerveau ici ne fonctionnent pas comme ça. Donc il y a des allers-retours, il y a des passages, mais malgré tout, on suit on suit un fil très bien, sans aucune. Simplement, quand la narration le demande et que on se balade comme la musique nous l'enseigne. Et la narration, moi j'aime ça dans les romans où je sais pas, ils sont là à un concert d'Iggy Pop et tout d'un coup on regarde ce corps d'Iggy Pop et naturellement on repart quelques années en arrière dans la vie de cet homme pour comprendre pourquoi il est là, sans, j'ai pas expliqué pourquoi. Mais disons que c'est naturellement, on circule dans le temps, mais ça on le fait constamment. Je vous regarde et je pense à un autre lieu, à autre chose, à personne.
Et moi aussi.
Et ben voilà, et ben c'est parfait. Et ben comme ça on est deux.
Avec une playlist à la fin du roman de Pierre Ducrozet, important, hein, qui voilà.
Oui, comme une bibliographie en fait de ce qui.
Bande sonore qui résonne dans le roman avec voilà ce qu'Antoine résonne. Joue à Paris, à Lyon, ce que Paul écoute à New York et ailleurs, ce que Cara mixe à Berlin et en Corse. C'est aussi la musique qui retentit en arrière-fond du livre, qui fait danser et vivre les personnages que l'on pressent entre les lignes. Voilà,
y a tout. Oui, c'est pas tout ce qui n'apparaît dans, parce que tout ce qui apparaît dans le livre, mais c'est les choses qui sont autour et à côté.
Autre remarque, réflexion, non ? Peut-être.
Merci d'être venu.
Eh bien, écoutez, à ce moment-là, merci beaucoup de votre attention. Merci à tous les trois. Merci Félicité Herzog. Merci Blandine Rinkel. Merci Pierre Ducrozet. Alors, Blandine Rinkel, vous êtes sur le stand des éditions Fayard. C'est L9, c'est bien ça, hein, L9, je crois que c'est ça. Oui, je vous invite à retrouver Blandine et puis. Pierre Ducrozet. Alors Pierre Ducrozet, vous êtes, je crois, vous, c'est sur le stand Actes Sud, c'est L30,
tout,
juste là, juste en face. Et Félicité Herzog, donc chez Stock, c'est sur le stand L11. Voilà. Je vous invite à poursuivre la discussion avec Blandine, Félicité et Pierre. Et puis je vous souhaite une bonne suite de Foire du Livre. Merci beaucoup et merci à tous les trois. Merci.